Bonsoir. La tribune de la presse aborde deux sujets. Nous commençons par la situation sécuritaire au Nord Kivu. Face aux menaces du M23, la MONUSCO déclare que la ville de Goma ne tombera pas. Ensuite, nous parlerons du régime lundi dernier par la plénière de l'interpellation du Premier ministre initié par le député national de l'opposition Jean-Lucien Boussa. Pour en parler, trois confrères sont avec moi. Benoît Cambéré, rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs, un magazine qui paraît à Kinshasa. Benoît Cambéré, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Harold Bellarmin Badibanga, secrétaire de rédaction à la RTGA, une télévision qui émet depuis Kinshasa. Bonsoir Harold Bellarmin Badibanga.
Bonsoir estimé confrère.
Serge Mapenda, nos journalistes reporters à la radio-télévision Semouli Kibeni et représentant zone Est, je précise, du groupe de presse Le Radar Kinshasa, basé à Beni. Serge Mapenda, nos bonsoir. À tous, bienvenue dans votre émission. Face aux menaces du M23, la MONUSCO déclare que Goma ne tombera pas. Régé lundi dernier par la plénière de l'Assemblée nationale de l'interpellation du Premier ministre initié par le député de l'opposition Jean-Lucien Boussa. Avant d'aborder ces sujets, voyons comment la presse quinoise les a commentés à travers cette revue de presse présentée par Samuel Kachak.
Bonsoir. La menace du M23 d'une éventuelle attaque sur la ville de Goma a fait la une des journaux parus cette semaine à Kinshasa. Pour Le Phare, le M23 menace de nouveau Goma. Déjà, elle a occupé militairement cette semaine, après affrontement, toutes les localités situées entre Kiwanja et Ishasha sur un couloir estimé à une soixantaine de kilomètres. Un geste qui a fait dire à la tempête des tropiques que le M23 veut prendre de l'avance sur les autres forces négatives opérant au Kivu et placer la communauté internationale dans une situation de fait accompli. Pour sa part, l'observateur se basant sur des informations de la société civile du Nord Kivu, annonce des infiltrations à Goma des éléments du M23 qui sèment la terreur, ce qui favorise la recrudescence du banditisme dangereux et de criminalité, conclut ce journal. Pour couper court à tout, l'observateur citant le porte-parole militaire de la MONUSCO affirme que la ville de Goma est bien sécurisée. Selon le colonel Félix Prosper Basse, le dispositif sécuritaire de la protection qui a été mise en place à Goma ne va pas permettre à aucune velléité d'attaque de le transpercer. Ceci sans compter que plusieurs patrouilles motorisées quotidiennes sont organisées dans la ville de Goma, poursuit le porte-parole de la MONUSCO. Pour le colonel Félix Prosper Basse, ce que disent les rebelles du M23 relève purement et simplement de la propagande. Il faut signaler aussi que la décision de l'Assemblée nationale de ne pas interpeller le Premier ministre a été traitée par certains journaux dans la capitale congolaise. Forum des As titre à ce sujet, le projet d'interpellation du Premier ministre est rejeté, un affrontement verbal. Au nombre des préoccupations soulevées par le député MLC figurent, entre autres, les guerres, les violences urbaines et tracasseries policières, la situation des déplacés des guerres, la misère et précarité, l'économie, la corruption et la mauvaise gouvernance, justice et droits humains, le développement des provinces et décentralisation, précise la prospérité. Pour la référence plus, les députés de la majorité présidentielle ont sauvé Matata Ponyo car en passant au vote, ils ont réussi à écraser le projet d'interpellation du Premier ministre initié par Jean-Lucien Boussa. Le potentiel quant à lui parle d'un coup d'épée dans l'eau car selon ce journal, cette motion fut une démarche à la fois inopportune et inappropriée selon les députés de la majorité présidentielle. Parmi les autres sujets de l'actualité de la semaine, il y a notamment la célébration chaque 5 octobre de la Journée mondiale des enseignants et l'affaire John Numbi contre le cinéaste belge Thierry Michel sur l'affiche du film « Affaire Chebeya, un crime d'État ».
Merci Samuel Kachak, c'est aussi pour nous l'occasion de rendre aujourd'hui hommage à Philippe Daïnden, l'un des pères fondateurs de Radio Capi, décédé samedi dernier à Lausanne en Suisse et inhumé le mercredi dernier. Harold Bellarmin Badibanga, vous êtes secrétaire de rédaction à la RTGA, une télévision qui émet depuis Kinshasa. Dans les autres sujets d'actualité, la CENI a publié la liste des 7 députés de Massissi finalement.
Finalement, moi je me disais que
cela devait arriver, coûte que coûte, étant donné que les élections ont été organisées dans ce coin de la République, mais eu égard à certains faits qui n'ont peut-être pas donné l'occasion à l'organe organisateur des élections de publier cette liste au même moment que les autres. Ce qui importait pour moi en tant que journaliste congolais, estimé confrère, c'est que au moment où cette liste tardait à venir, le quorum des députés au niveau de l'Assemblée nationale était déjà atteint et que la chambre basse du Parlement fonctionnait déjà bien et que ce qui vient de se faire, c'est une façon de prouver que les œuvres humaines sont toujours tachées de certaines irrégularités. Mais lorsqu'il y a la volonté de mieux faire, on arrive toujours à relever le défi et c'est un satisfecit pour moi.
Benoît Kambéré, la CENI qui publie cette liste, mais en même temps, il y a le barrage à Lawazé au Nord Kivu qui dénonce un peu, qui n'est pas du tout content.
Tout à fait, parce que la CENI publie la liste aujourd'hui, ce n'est pas un fait divers d'abord, parce que c'est cette même CENI qui avait refusé de publier cette liste, arguant le fait que les élections dans le Massissi se sont déroulées dans des conditions tellement mauvaises et qu'elle était caractérisée par des fraudes qu'elle a demandé à la Cour suprême d'invalider ces résultats. Qu'aujourd'hui qu'elle se dédise, bon, je ne sais pas si ça s'appelle bien faire ou mieux faire après. Ça c'est un. De deux, que le tollé général soit celui qu'on voit dans le barrage à Oisé à Goma prouve que ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Il a été question qu'on reprenne les élections dans cette partie du pays, n'est-ce pas? Et que on essaye de voir. Mais compte tenu de l'insécurité qui s'y passe, on publie les résultats tels qu'ils ont été publiés. Et je note que parmi les élus, il y a un membre du CNDP, n'est-ce pas? Et des alliés du CNDP. Ce qui fait dire que dans le territoire de Massissi, il n'y a qu'un seul Mounde qui a été élu, alors que le territoire de Massissi est majoritairement peuplé des Houndé. C'est ce qui fait qu'il y a tollé général à Goma dans les barrages à Lawazé.
Voilà, je rappelle Benoît Kambéré que vous êtes rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs, un magazine qui paraît à Kinshasa. Avant de donner la parole à Serge Mapendano, Harold Bellarmin Badibanga, je reviens à vous. Je sais que vous avez toujours un piquant judiciaire dans vos analyses. L'affaire Thierry Michel, John Numbi.
Vous savez, je ne voudrais pas aborder la question en termes de crime d'État, mais je parle, moi, en termes d'une affaire d'État. Une affaire d'État, c'est qu'un Congolais est mort. Aux choses odieuses, l'interprétation est stricte. Nous ne pouvons pas négliger la mort même d'un fœtus au Congo du moment que ce fœtus est congolais. Mais Thierry Michel, que vient-il faire dans l'affaire qui oppose des tribunaux congolais à des Congolais par rapport à un crime dont le Congolais est victime? Je pense qu'au-delà du profit non manifeste et de l'intention manifeste de Thierry Michel de vouloir globaliser l'affaire en faisant d'elle une certaine instrumentalisation, je crois savoir qu'il revenait à John Numbi de demander que son honneur gâché, que les accusations qu'il estime à tort ou à raison n'être pas bonnes de la part de Thierry et Michel, au regard de ces accusations, qu'il soit remis dans ce droit. Je me rends compte, en tant que journaliste congolais, que Thierry Michel est en train de tirer des ficelles là où il n'est ni parti civil. On ne comprend pas quel rôle il joue dans ce procès-là. Mais lorsqu'il fait des analyses de façon à pointer du doigt quelqu'un que le procureur général de la République au Congo n'avait pas mis en accusation de manière directe, je me rends compte qu'il y a Anguille Souroche dans le chef de celui-là.
Bref, commentaire.
Juste quelques précisions. Il est ici question de pas d'un Congolais qui est mort, mais de deux Congolais qui ont été assassinés dans les locaux de la police. Ça, c'est de un. De deux, Thierry Michel a fait son travail de journaliste, c'est-à-dire qu'il a fait un documentaire, enquête journalistique. Il présente les faits. Qu'est-ce qui est attaqué sur ces faits? C'est l'affiche. Tout simplement, l'affiche qui, selon l'avocat de Numbi, n'est-ce pas, présente Numbi comme si c'était lui le. Ce n'est pas explicitement dit. C'est une affiche qui suggère que c'est un crime d'État. L'assassinat des deux activistes de droits de l'homme ont été faits dans les locaux de la police. Mais qui se sent morveux se mouche.
Serge Mapendano, vous êtes journaliste reporter à la radio-télévision Semouli Kibeni et représentant zone Est du groupe de presse Le Radar Kinshasa, basé à Beni. Quelle est l'actualité à Beni aujourd'hui ou cette semaine?
Merci beaucoup Alain Hirung, merci à Radio Capi pour cette opportunité. Venant à la question, il faut dire qu'une lumière qui est en sécurité, qui s'est vue au Nord Kivu, touche tous les territoires et villes de cette province. Ici à Beniville, par illustration, des cas de vol, des cambriolages, des violences, des tentatives d'enlèvement ne cessent d'être enregistrées presque au quotidien. Et cas le plus frappant, c'est le vol de plus de 13 millions de francs congolais, vous l'avez peut-être suivi, à la mairie de Beni, il y a peu de jours. Le montant était destiné au paiement des fonctionnaires et les enquêtes ont été lancées par les autorités sécuritaires. Un montant important est déjà retrouvé. Et les auteurs sont juste après de chercher. Certains observateurs interrogent M. Alain par rapport à cette situation. Et pour la décision, c'est-il, si le vol atteint le pays de la ville de Beni, quel sera l'essor maintenant de ces habitants qui se retrouvent, qui sont partis dans les 30 quartiers de la ville? Une situation déplorable, M. Alain, c'est en territoire de Beni. On signale des cas d'assassinat avec des conséquences très fâcheuses. Remarquez avec moi, ça fait pratiquement 21 jours de grève des enseignants dans le territoire de Beni, principalement sur l'axe routier Beni-Eringeti, dans les localités de Malvivi et Towicha, où cette situation a été due, vous le savez, depuis le 14 septembre 2012, vers 3 heures. L'assassinat crapuleux du préfet de l'Institut Moïse à Ambaou, connu sous le nom de Kakule Robert Waviri, les auteurs sont encore, entre guillemets, non vraiment identifiés jusqu'à l'heure où je vous parle. Et tous les enseignants sont soutenus par FIECO et SINECAT et même la société civile. Ils poursuivent la grève jusqu'à présent et conditionnent la rentrée des classes par l'arrestation et condamnation des vrais auteurs de cet assassinat. En dépit de l'appel de l'administrateur du territoire de Beni et même l'interaction ministre provincial de l'Intérieur, qui était descendu d'ailleurs dans les chefs-lieux du territoire de Beni pour la cause. Bref, la situation vraiment est très déplorable. Encore une fois, ce qui fait fâcher depuis hier, c'est un autre cas déjà à Kassindi, où à Kassindi, c'est une cité frontalière située à 70 km au nord-est de la ville de Beni, où M. Prince, dépositeur du poids de son état, a été tué dans la nuit du Marseillais, c'est Jésus, par les inciviques, qui sont encore non retrouvés. Des viols, oui. Dans les Loups-Perrault, dernier cas en date.
Serge
Saver. Oui.
Voilà. Oui, alors. Souffrez que je vous arrête, puisque nous allons directement aborder le premier thème qui a trait à la situation sécuritaire au Nord Kivu. La MONUSCO dénonce et condamne des cas de viol, d'enlèvement, d'actes de banditisme et de pillage commis la semaine dernière au Nord Kivu par des éléments du M23. Lors de la conférence hebdomadaire des Nations Unies ce mercredi à Kinshasa, le porte-parole militaire de la MONUSCO a rassuré qu'en dépit des menaces proférées par le M23 sur son éventuelle prise de Goma, cette ville ne tombera pas aux mains des rebelles. Pour le colonel Félix Prosper Bass, la sécurité autour de Goma est très solide, aussi bien par le déploiement des FARDC que par celui de la MONUSCO. Et en interne, les patrouilles sont en train d'être conduites. Le colonel Félix Prosper Bass, dans cet extrait proposé par Michel Kifindangoy.
Les incidents qui ont été observés à Goma étaient vivement condamnés par toutes les parties, mais ceci n'entame à rien le plan de protection interne de la ville de Goma qui a été mis en place et auquel prennent part toutes les forces de défense et de sécurité congolaises qui nous permet, nous, de pouvoir sécuriser la ville dans toute sa dimension. Maintenant, est-ce que Goma peut tenir? Le dispositif qui a été mis en place autour de Goma ne permet pas à quelques velléités du M23 de pouvoir transpercer ce dispositif et d'entrer à Goma. Que le M23 le déclare, ça rentre purement dans le cadre d'une propagande bien précise, mais je pense que nos forces sont assez équipées, assez déterminées pour protéger la ville de Goma, vaille que vaille.
Alors Serge Mapendano, vous êtes à Beni. Comment, à partir de Beni, vous percevez ces menaces du M23 par rapport à la prise de la ville de Goma?
Et par rapport à cette actualité, aujourd'hui, la ville de Beni, on se dit, mais Il est vrai que, comme on ne tombera jamais, on le dit, merci. Et pourquoi les autres localités continuent à tomber au quotidien? Là, je parle des territoires des Routuro. On ne voulait pas y revenir. L'axe routier vers Kiwanja et Chacha, des localités sont sous contrôle du M23. Donc, la situation est très confuse, de manière à sorte qu'on se demande comment il y a même des alliances avec les rebelles, un certain sultan et un colonel. Et qui s'est autoproclamé des Mai Mai. Il a créé son milice pour empêcher les M23. Et d'après des jours, la cité civile nous rapporte qu'il y a déjà une alliance qui s'est effectuée à 40 km de la cité de Kiwanja, ça veut dire à Nyamilima, entre lui et le M23. Ça veut dire qu'il y a un grave problème, il y a une confusion très déplorable à ce sujet, et l'on se dit, on risquera de prendre toute la province du Nord Kivu de cette manière. Autre chose, c'est qu'ils déplorent, et je viens de suivre le représentant de la MONUSCO, mon studio, ça veut dire qu'il y a déjà une force pour empêcher le M23, Goma ne tombera jamais, et d'autres localités qui tombent aujourd'hui. On se dit, pourquoi ne pas utiliser cette force pour mettre fin à la crise qui s'est vue au Nord Kivu? C'est un instant, pas en fait ça, monsieur Alain Héron, c'est que la population de Béni, certains observateurs, et se demande par rapport à cette confusion qui se serve par rapport à la résolution de la crise et au Nord Kivu. Voilà.
Voilà. Harold Bellarmin Badibanga, pourquoi Goma ne tombera pas? Pourquoi les autres localités tombent-elles? Se demande Serge Mapendano. Il y a une situation confuse, prolifération des milices avec des alliances contre nature. Comment vous analysez cette déclaration de la MONUSCO?
Mon analyse par rapport à cette question, il est clair, mon cher confrère. Lorsque on dit Goma ne tombera pas, il est un secret des polichinelles. Le gros des forces de la MONUSCO et même de celles des forces armées de la République démocratique du Congo sont concentrées sur la ville de Goma, eu égard à la menace que je considère d'ailleurs de la part du M23 comme une sorte de guerre médiatique pour créer la psychose dans le chef des habitants de Goma et pour démobiliser les troupes conjointes FARDC MONUSCO. Et donc voilà pourquoi on justifie la décision ou la volonté manifeste de la MONUSCO et des FARDC de ne pas céder à ces menaces de Goma, étant donné que si aujourd'hui Goma arrivait à tomber au regard du dispositif militaire de la MONUSCO et des FARDC, ça serait une humiliation terrible par rapport à tous ces efforts qui ont été fournis ou qui sont fournis par rapport à la sécurisation de la ville de Goma. Alors pourquoi d'autres localités tombent? La réponse est claire. Je suis en train de me rappeler, c'est que j'ai entendu parler à raison, d'ailleurs qu'il y a une forte complicité dans le chef de beaucoup d'acteurs dans la guerre à l'est de la RDC. Je parle de ces gens qui, au moment de l'opération qu'on a communément appelé brassage, ont été placés à la tête de certaines localités RD congolaises comme membres des FARDC ou éléments des FARDC, alors que ils venaient ces gens du CNDP qui s'est mué aujourd'hui en M23, et donc le brassage n'ayant pas été fait en bonne et due forme, ces gens en qui on a placé confiance ne font pas la guerre aujourd'hui. Ils font juste le ralliement. Quand aujourd'hui on parle de telle localité ou telle autre qui sont tombés, ça ne veut pas dire qu'il y a eu affront entre, je dis bien, les forces de la MONUSCO et des FARDC contre les agresseurs du M23, mais il s'agit plutôt d'un ralliement, quelqu'un qui se réveille un matin, qui dit « je ne fais plus partie des forces armées de la République démocratique du Congo ». C'est de ça que l'on parle, telle localité est tombée, c'est le fruit de la complicité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à mettre fin à ça? Il ne faudra pas que tous les efforts de protection ou le protectionnisme s'arrêtent à la ville de Goma. Goma, il faut aller au-delà de la ville de Goma pour reconquérir les localités qui sont tombées. Étant donné que c'est un secret des polichinelles, les forces de M23 n'ont pas d'effectifs comparables à ceux des FARDC et de la MONUSCO.
Benoît Kambéré, Harold Bellarmine Badibanga l'a également dit, la guerre est aussi médiatique, mais c'est la MONUSCO qui communique. On aurait, certains observateurs auraient voulu entendre le gouvernement congolais en ce moment.
Effectivement, parce que ce n'est pas à la MONUSCO de défendre le territoire congolais. Ce n'est pas à la MONUSCO de défendre Goma. Et je crois que notre confrère Serge Mapenda nous l'a dit. La MONUSCO était à Runyoni, la MONUSCO était à Bunagana, la MONUSCO était à Kiwanja, la MONUSCO était à Rutshuru, Rutshuru, Bunagana, Runyoni. Toutes ces localités sont tombées. C'est aux forces armées de la République démocratique du Congo, et ça c'est un devoir régalien, n'est-ce pas, de défendre le territoire de la République démocratique du Congo, de défendre la ville de Goma, pas seulement la ville de Goma, toute la province du Nord Kivu, et en fin de compte toute la République. Ce n'est pas à la MONUSCO de le faire. Et ça nous rappelle des choses. Parce que, avec, à cette allure, je me rappelle en 2006, n'est-ce pas, plutôt en 1996, j'étais en train de faire une interview avec quelques confrères sur Africa numéro 1. Et à l'époque, on interviewait l'actuel porte-parole du gouvernement. Beaucoup de gens ne le savent pas ou l'ont oublié. Il fut ministre du gouvernement à l'époque, il était vice-premier ministre chargé des transports. Et les déclarations étaient « Kisangani ne tombera pas ». Au moment où l'interview passait sur Africa numéro 1, un flash a interrompu notre émission. On annonçait la chute de la ville de Kisangani. Ces déclarations-là, on les a entendues dans ce pays et qu'on ne croit pas que ceux qui ont entendu et ceux qui ont dit ces déclarations sont décédés.
Alors par rapport à la solution, il y a ce rapport de International Crisis Group qui a été publié hier jeudi. Dans ce rapport, il est dit, je vais lire un extrait, la réponse au problème du Kivu se trouve à Kigali et à Kinshasa, mais aussi à Bruxelles, à Washington et à New York. La principale recommandation que International Crisis Group fait dans ce rapport est d'exercer des pressions à la fois sur Kigali et sur Kinshasa, Benoît Kambéré.
Absolument. Le problème se trouve et à Kinshasa et à Kigali. Et bien sûr dans les grandes capitales entre guillemets de ce monde. Paris, Bruxelles, Washington, New York, où effectivement la solution ne peut venir que de Kinshasa et de Kigali. Même si Kigali nie, comme l'a dit le ministre belge des Affaires étrangères, il doit faire partie de la solution, même s'il nie faire partie du problème. Alors, et à Kinshasa, c'est à Kinshasa qu'on doit s'activer, n'est-ce pas? À Kinshasa, maintenant, c'est la francophonie, le reste, on n'en parle pas. Et c'est assez dommage.
Serge Mapendano, il y a un ballet diplomatique auquel on a assisté jusqu'ici entre Kinshasa et Kigali. On connaît la manière dont ça se passait. À votre avis, au regard de ce rapport de Crisis Group, êtes-vous d'avis qu'il n'y a pas encore suffisamment de pression sur Kinshasa et Kigali? Serge, la qualité de votre ligne tend à se dégrader. Notre réalisateur va tenter de vous rappeler sur une autre ligne pour voir si cela s'améliore. Harold Bellarmine Badibanga, comment vous répondez à cette question?
Non, je pense que la thèse du Rwanda selon laquelle la crise à l'est de la République démocratique du Congo est une affaire congolo-congolaise, c'est une thèse qui est révolue, étant donné que par rapport à ce rapport de Crisis Group et bien d'autres rapports, on se rend compte que le Rwanda fait effectivement partie du problème. Mais est-ce qu'il faut s'arrêter à penser ou à constater que le Rwanda fait partie du problème pour que la guerre à l'est prennent fin, où il faut contraindre le Rwanda? Je crois savoir qu'au-delà de ce qui a été fait, des différentes sanctions internationales faites, moi, je fonde mon espoir sur la recommandation faite par Hillary Clinton de voir les ténors du M23 et leurs protecteurs être être déféré devant la justice pénale internationale. C'est un bon départ étant donné que tout être humain, lorsqu'il est devant la justice pour répondre de ses faits, cela l'aide à ne plus continuer dans ses velléités. Mais au-delà de tout ça, je crois savoir que on peut aller de conciliabule en conciliabule, mais si au-delà de la solution internationale que l'on nous donne, on ne peut pas arriver nous-mêmes à comprendre que lorsque on est devant l'offensive, on répond par la contre-offensive, et lorsqu'on est devant la contre-offensive, on doit répondre par la contre-offensive foudroyante. Je crois qu'on ne peut pas arriver à bout de l'ennemi. Mais là où il faut préciser quelque chose, c'est qu'il ne faut pas qu'on fasse croire aux gens que les FARDC ne font rien et que la sécurisation du territoire national est restée depuis un temps l'apanage de la MONUSCO seule. Le porte-parole militaire de la MONUSCO que nous avons suivi dans cette émission n'a pas dit ça. Il a dit que toutes les opérations qui sont faites à l'est de la RDC sont faites de manière conjointe entre la MONUSCO et les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous ne disons pas non plus que cette sécurisation devient l'affaire de la MONUSCO. Nous ne disons pas aussi que la communication par rapport à ce qui se passe au front est une affaire de la MONUSCO. Non. La MONUSCO a dans sa mission son système communicationnel qui n'a rien à voir avec celui du gouvernement. Je ne crois pas que on ira aujourd'hui le fait que depuis un temps, le porte-parole du gouvernement est plus actif, plus que beaucoup des ministres qui sont passés par le poste où il est aujourd'hui.
Benoît Kambéré, le temps que la réalisation retrouve notre confrère Serge Mapendano, le rapport de Crisis Group dit ceci, un autre extrait. À court terme, il est urgent d'établir un cessez-le-feu entre l'armée congolaise et le M23 sous la supervision de l'ONU. Par ailleurs, les accords de 2009 doivent être évalués conjointement dans le cadre du comité de suivi international prévu à cet effet.
Et c'est des choses qui devaient être faites depuis longtemps. Il faut dire que le cessez-le-feu, on peut dire qu'il est de fait. Mais maintenant, là, il devra être déclaré vraiment. Mais cela veut dire que chaque groupe va garder les positions où elle est. C'est-à-dire le M23 à 30 km de Goma, jusque vers, maintenant, il cherche, d'après les dernières informations qu'on a entendues. Mais à partir de là, Crisis Group propose quoi? Qu'on en revienne aux accords du 23 mars, justement, qui ont donné le jour au mouvement M23, qui est un mouvement qui est issu du CNDP. Pourquoi on ne peut pas en parler? Pourquoi on voudrait occulter cette... Maintenant, qu'on revienne autour d'une table, parce que on le sait, toutes les guerres, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur durée, se terminent par un pourparler autour d'une table. Si ça peut faire l'économie des morts des Congolais, qu'on se remette sur la table, qu'on évalue ce fameux accord du 23 mars. Qu'est-ce qu'il disait? Il promettait quoi à qui? Et qu'on sache qui n'a pas fait sa part du travail et qu'on... Parce que les signataires de cet accord du M23, ils sont vivants. Il y en a qui siègent au gouvernement.
Serge Mapendano, est-ce que vous nous suivez? Vous êtes de nouveau en ligne? Serge Mapendano?
Oui.
Vous nous suivez, Serge? Vous êtes en ligne?
Je vous suis très bien, monsieur Aléron.
Voilà, la qualité de votre ligne s'est nettement améliorée. Nous parlions de la menace du M23 qui plane sur la ville de Goma. Serge, au niveau de Beni, qu'est-ce qui s'est dit en ce qui concerne les solutions?
Voilà, merci. Par rapport à toutes ces résolutions, vous me posez même la question concernant la pression rwandaise. Et on se dit, l'État congolais doit cesser d'interloquer les Rwandais. Vous savez, la diplomatie congolaise doit amener les conseils de sécurité en ces jours à changer le mandat actuel de la MONUSCO en une force militaire très musclée et pour combattre sévèrement les rebelles du M23, notre force négative. Et pourquoi pas les Rwandais qui les appuient, et comme le cas de Bounia à l'époque, qui s'est fait avec la force Artemis pendant la guerre. On ne peut jamais parler de la stabilisation, ni moins jamais de la protection des civils. Et la protection des civils ne peut jamais être effective sans mettre fin à la guerre. C'est pourquoi nous on s'est dit la diplomatie congolaise doit aller de l'avant pour envie de permettre au conseil de sécurité de signer une résolution qui condamne le Rwanda et qui déploie une force dans l'urgence. Dans des milliers de Congolais qui meurent aujourd'hui, qui sont violées avec tous les rapports que nous apprenons d'un peu partout. C'est très déplorable et l'État congolais doit vraiment prendre ses responsabilités. À part ça, on leur s'est dit il faut le renforcement des FRDC avec l'appui bien sûr de la MONUSCO, mais sa complicité. Aujourd'hui, toutes ces localités sont tombées. Mais l'on est en droit de dire qu'apparemment, il y a toujours, pas même apparemment, l'on est en droit de dire qu'il y a toujours des complicités de la part de certains de nos dirigeants. Et là, c'est trop grave. Et ça profite à quoi on fait la guerre avec tous ces compatriotes qui meurent du jour au lendemain? Est-ce qu'il faudra une révolution, une révolte de la population avec peut-être des violences pour amener une force et vraiment militaire, et qui doit mettre hors l'état de nous de la population, et tout se rappelle, qui ne cesse vraiment de mettre l'insécurité dans le territoire congolais. Je crois qu'il Serge, est temps d'agir.
Serge, le rapport d'International Crisis Group propose de réévaluer les accords de Goma. On assiste en même temps à une prolifération des groupes armés, des alliances contre nature, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce une partie de la solution?
On peut dire que, de toute évidence, ça fait partie de la solution. Mais j'aimerais dire aussi, le peuple congolais doit rester uni à se désolidarisant des groupes rebelles et nationaux qui ne cessent de naître rien que pour appuyer l'idée de balkanisation. À ces cas-là, on doit dire que la RDC est une et restera indivisible. C'est pourquoi c'est parmi les solutions, mais on ne doit pas s'arrêter là. Il faut une contrainte diplomatique de la part de la RDC, mais aussi le peuple congolais doit voir comment agir contre toutes ces rébellions qui ne cessent vraiment de venir encore pousser la main dans les sangs du Congolais.
Merci. Voilà. Merci. Nous allons directement passer à notre deuxième thème. Il nous reste presque 10 minutes pour terminer cette émission. Le Premier ministre ne répondra pas aux questions des députés nationaux. C'est la conséquence du rejet de l'interpellation initiée à ce sujet par le député Jean-Lucien Boussa. En effet, ce député de l'opposition avait sollicité l'interpellation d'Augustin Matata Ponyo afin de s'expliquer sur certaines questions d'actualité comme la raison de la guerre du Nord Kivu et la cherté de la vie au pays. Pour l'opposition, il était temps que le chef du gouvernement éclaire l'opinion car il y va de l'intérêt national. On écoute Franck Diongo, député de l'opposition.
Toutes les initiatives pour permettre au peuple congolais d'être informé comment le pays est mal géré est étouffé par la majorité. Au niveau de la corruption, le Congo reste le pays le plus corrompu de la planète. Au niveau des inégalités, le taux d'inégalité est de 42%. C'est dire que c'est le plus élevé en Afrique centrale. Ce taux de 42% visualise l'injustice distributive. Au niveau de l'insertion sociale de la jeunesse, c'est dire dans le travail, le taux de chômage augmente. Ceux qui travaillent, vous avez le sous-paiement, l'impaiement et l'absence même de paiement. C'est dit que sur le plan sécuritaire, tout le monde sait que le gouvernement n'a pas un discours de vérité. On cache la vérité aux Congolais par rapport à la guerre à l'Est.
Pour sa part, la majorité juge inopportune cette interpellation, estimant qu'il faut du temps avant d'évaluer l'action du gouvernement. Pius Mwabilou, député de la majorité.
Il y a 3 mois que le gouvernement est en place. Nous avons voté une loi d'habilitation pour permettre au gouvernement de mettre sur la place publique des lois qui puissent lui permettre d'atteindre certains objectifs. Il faut laisser le Premier ministre travailler et lorsque le budget arrive prochainement, les gens vont avoir l'opportunité de lui poser des questions à ce sujet sur l'exécution, de toutes les façons sur la reddition d'abord du budget 2012 et sur l'exécution de ce budget et sur le budget à venir et puis des deux. Bon, il y a déjà de la matière qui a été destinée à un responsable sectoriel, le ministre de la Défense, qui prend 7 points sur les 10. Donc, le mercredi prochain, nous avons une motion de défiance destinée au ministre de la Défense sur les mêmes matières. Alors, nous nous disons qu'il faut attendre que celui-ci s'explique.
C'est un dossier signé Mimi Ngumba. Benoît Kambéré, vous êtes rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs, un magazine qui paraît à Kinshasa. Opportune, inopportune, l'interpellation du Premier ministre, quelle est votre analyse?
Bon, d'abord, c'est quoi une interpellation? C'est un exercice normal dans un parlement normal, dans un pays normal. Une interpellation, c'est tout simplement une demande d'explication. Alain Hirung, comment expliquer qu'aujourd'hui, votre micro a une cachette noire? Vous dites non, tout simplement parce qu'on a changé, on voulait mettre point barre. Pourquoi une interpellation devrait poser problème? C'est tout simplement une demande d'explication. Je ne vais pas revenir sur les bons mots de mon ami et confrère Ali Boukassa qui a parlé de notre parlement, qui est un parlement des églises, comme une église de réveil où on demande à tout le monde de dire amen. On demande au Premier ministre d'arriver, de dire qu'est-ce qui ne va pas avec la guerre de l'Est. De dire la corruption bat son plein dans notre pays. Qu'est-ce que vous faites? De nous dire sur le plan social, ceci ne va pas. De nous dire l'argent sort pour la francophonie. Ça sort comment? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on est en train d'auditer cela? De dire, c'est des exercices normaux. Pourquoi on doit empêcher? Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait seulement 3 mois qu'il n'a pas, le droit de donner des explications sur des choses qui ne marchent pas. Et ce que le député de l'opposition, Bousset, a dit, c'est des choses vérifiables, des choses vraies. Pourquoi on voudrait empêcher au Premier ministre de venir s'expliquer tout simplement devant la représentation nationale? Et on va à des votes alors que on aurait pu le laisser convaincre, par exemple. Ça aurait pu être bien, mais maintenant, à l'allure où vont les choses, les mots d'ordre viendront, on interpellera personne au Parlement. Peut-être que la semaine prochaine, le ministre de la Défense sera encore en mission. Il ne va pas venir au Parlement. Et on continuera comme ça, de report en report, de protection en protection, à cause de la majorité mécanique des gens qui ne font que dire amen aux injonctions qui viennent de l'extérieur. Et c'est dommage.
Harold Bellarmin Badibanga, vous êtes secrétaire de rédaction à la RTGA, une télévision qui émet depuis Kinshasa. Finalement, la plénière de mercredi, on devrait recevoir le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a été reportée à une date ultérieure.
Non, mon cher ami, je crois que lorsque nous abordons les questions de l'État, nous devons les aborder avec l'état d'âme, mais non les aborder avec l'âme d'État et non avec les états d'âme. Ce qui se fait à l'Assemblée nationale aujourd'hui fait partie du fonctionnement normal d'un Parlement. C'est normal qu'un député propose l'interpellation d'un Premier ministre. C'est normal aussi qu'un autre propose que cette interpellation soit rejetée. Aucune démarche n'est allée au-delà du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ça, c'est de un. De deux, on n'a pas dit que le contenu de l'interpellation initiée par l'honorable Boussa Tomba est nul et non avenu. Non. Avant de parler du fond de la chose, et c'est véridique, il faut commencer par la forme, est-ce que la forme est respectée? Je dis, peut-être le débat n'est pas à ce niveau, mais celui qui a proposé que l'interpellation n'ait pas lieu parle de l'opportunité et de l'inopportunité. Et c'est quoi l'inopportunité ici, mon cher ami? Vous avez le ministre de la Défense qui est interpellé pour parler de quoi? Pour parler de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Au même moment que vous ne l'avez pas encore entendu, vous préférez que celui qui doit donner plus de matière que lui vienne, presque au même moment, pour parler des mêmes sujets. Est-ce que c'est normal que l'on me dise ici que les éléments par rapport à la situation à l'est de la République démocratique du Congo qui seront donnés par le ministre de la Défense seront vraiment autres que ceux que le Premier ministre allait venir donner? Ça, c'est de un. De deux, l'honorable Plus Mwabilou a su démontrer, je suis journaliste spécialiste aussi des questions parlementaires, j'étais dans la salle, il a su montrer l'autoplagiat de l'honorable Boussa Tomba quand il démontre que le premier ministre Antoine Gizenga Fundji, le premier ministre Adolphe Muzito Fumonti ont eu, dans les mêmes circonstances, à répondre de la même motion d'interpellation du même auteur, mais seulement ayant changé de nom. Est-ce qu'on estime que même si la République démocratique du Congo était un champ de patates douces, on ne peut pas user des mécanismes érigés par l'Assemblée nationale pour garantir la démocratie. J'ai dit que c'est ça la démocratie. Il n'y a pas de cadeau à se faire dans le fonctionnement d'un pays démocratique où il y a majorité et opposition. Voilà, voilà pourquoi moi j'exhorte les opposants et la majorité à comprendre que nous crions démocratie, c'est ça la démocratie, mais nous nous inclinons devant les lois. Je ne crois pas que la procédure utilisée pour débouter l'interpellation de Boussa était une illégalité.
Serge Mapendano, vous êtes journaliste et reporter à la radio-télévision Semliki, Beni et représentant zone Est du groupe de presse Le Radar Kinshasa, basé à Beni. Un exercice démocratique, dit Harold Bellarmin Badibanga, mais en même temps, certains observateurs pensent que le contrôle parlementaire est mis en mal. Serge? Voilà, nous avons perdu Serge Mapendano, le temps que la réalisation puisse le retrouver. Benoît Kambéré, la question du contrôle parlementaire qui semble demeurer une épine dans le pied de l'Assemblée nationale, d'après certains observateurs.
Effectivement, il est mis à mal, et là, était mis à mal la législature passée. On a vu comment certains ministres ont été protégés tout simplement parce qu'ils font partie de la majorité présidentielle, et toutes ces motions qu'on rejette tout simplement parce qu'un mot d'ordre est venu de l'extérieur. C'est quand même assez déplorable. On a dit que dans notre pays on faisait notre pays est démocratique. Oui, mais arrêtons. On sait comment les choses se passent dans notre pays. Est-ce que ça coûtait quoi? Parce que le chef du gouvernement, qui est le chef du ministre de la Défense, vient s'expliquer au nom de tout le monde. Enfin, c'est vrai, quelqu'un, quand on ne veut pas, quand on veut protéger les siens, on passe par des motions comme ça, et comme à l'Assemblée nationale, comme l'a dit mon confrère Ali Boukassa, c'est les Amen qui est... quelqu'un dit Alléluia, tout le monde doit dire Amen, et le Alléluia peut venir de l'extérieur, et ça passe comme une lettre dans la poste. On a vu toutes ces révisions constitutionnelles, cavalières qu'on a eues, et qui nous ont amenés à la situation de crise d'aujourd'hui, c'était de la même façon. On devrait tirer des leçons, des bêtises que nous sommes en train de faire et corriger. Persévérer dans la bêtise est diabolique. On peut faire des bêtises, mais on ne peut pas persévérer dans la bêtise.
Harold de Bellarmé va dire.
Non, écoutez, il s'agit là d'un problème fonctionnellement normal dans toutes les démocraties. Je ne sais pas ce que Benoît Kambéré appelle ici bêtise. Lorsque nous parlons de la majorité et de l'opposition, c'est pas une roue inventée par la République démocratique du Congo. Même en France, même en Belgique, même aux États-Unis, lorsqu'une famille politique lève une option par rapport à une situation politique, cher ami, je le dis, en donnant ma main à couper, Benoît Kambéré ne la coupera pas. Il y a toujours un mot d'ordre qu'une famille politique donne à ses membres par rapport à l'orientation, étant donné qu'une famille politique est là pour gérer la République. Ça ne se gère pas sans mot d'ordre. Alors, qu'on me dise que parce que le contrôle parlementaire doit exister, il doit se faire comme dans un champ de patates douces. Non. Lorsque l'on parle du premier ministre qui devait être interpellé, la majorité a estimé pour telle ou telle autre raison, des deux choses l'une. Voilà, pour les mêmes raisons, on ne peut pas prendre deux individus qui viennent se présenter au même moment. La majorité est là pour gouverner selon les règles. L'opposition doit contester la gouvernabilité par la majorité selon les règles aussi. Et là, le légalisme est garanti. Rien n'a été violé comme disposition, ni constitutionnelle, ni du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Heureusement que Benoît Kambéré n'a pas su, à ce niveau-là, démontrer une seule disposition du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui a été violée.
Serge Mapendano, est-ce que vous êtes en ligne?
Je suis à l'une, monsieur Allaire.
Voilà, malheureusement, l'émission va toucher à sa fin. Nous allons terminer par vous. Comment, de Beni, vous avez perçu le débat à l'Assemblée nationale autour de cette interpellation du Premier ministre?
En fait, les opinions sont partagées, mais pour ce qui me concerne, je pense qu'il ne faut pas se moquer du souverain primaire, le peuple. Est-ce que pour s'expliquer concernant la situation sécuritaire avec des chaos humanitaires, il faut vraiment dire que c'est pas opportun? Moi, je pense que c'est plutôt priori. souveraineté du peuple l'exige. Et le peuple est le patron de ses députés et a besoin des explications très claires du Premier ministre. Et c'est une urgence absolue. Je pense que l'élu de Boutial avait raison et devait être soutenu par même la majorité, même l'opposition, pour trouver cette rédhabilité électorale, M. Alain.
Merci, cher confrère, d'avoir participé à cette émission. La tribune de la presse de ce soir, c'est fini. Merci à vous, chers auditeurs et internautes, de votre attention. Merci à Samuel Kachak qui a assuré la réalisation sous la supervision de Pélé. Équipé Lamondo, Guy Manzangou était à la technique, présentation et coordination. Alain Hirung Mouchinj, au revoir.